Eh bien oui, nous sommes avec du coup Philippe Cazeneuve qui vient nous parler de sa conférence gesticulée qui a eu lieu il y a quelques heures sous le chapiteau. Est-ce que du coup vous pouvez succinctement nous présenter ce qu'est une conférence gesticulée déjà ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors une conférence gesticulée, c'est un genre qui a été inventé il y a maintenant 9 ans, presque 10 ans, et qui est un concept, c'est une conférence d'abord, donc il y a un sujet qui est traité, mais c'est une conférence spectacle. L'idée c'est qu'on va mélanger une partie autobiographique, on parle de sa vie, avec le sujet qu'on veut traiter. Donc on va tresser en fait à la fois un développement d'une idée. En général, les conférences gesticulées ont toujours un sujet plutôt politique qui parle d'un thème d'actualité avec un angle d'attaque économique, sociologique, philosophique et politique. Et puis avec son parcours autobiographique pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on a été amené dans la vie à s'intéresser à ce sujet-là.
D'accord, parce que vous avez noté, donc spectacle mais pas théâtre, conférence mais pas exposé, et du coup c'est peut-être une manière de garder l'attention du spectateur pendant une conférence justement.
Donc c'est l'idée, on essaie de s'adresser aux gens pas seulement à la tête, pas seulement à l'intellectuel, mais la dimension autobiographique permet de toucher les gens au niveau du cœur et au niveau des sentiments, des émotions et au niveau du ventre aussi. C'est un peu l'idée. De rentrer par des images, par des métaphores, donc c'est à la fois très pédagogique et en même temps on touche au domaine des émotions et du sensible, quoi. Ce qu'on dit fréquemment des conférences gesticulées, c'est que c'est un mélange de savoir chaud, l'expérience personnelle, et de savoir froid, un travail qui a été fait sur un contenu, et que le mélange des deux, le chaud et le froid, ça fait pas du tiède mais ça fait de l'orage.
Très bien. Et du coup, là, le sujet de votre conférence, du coup, c'était le rapport entre la technologie et le temps. Pourquoi ?
Alors, je me suis basé sur les travaux d'un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui s'est intéressé à la question de ce qu'il appelle l'accélération du temps, en tout cas le sentiment qu'on a que les choses vont de plus en plus vite, que plus ça va, plus on met de technologie, plus ça va vite et moins on a de temps. Et on veut gagner du temps et en fait on a l'impression qu'on en a de moins en moins. Et c'est ce paradoxe-là dont il est question. Et il y a différents éléments qui rentrent en compte, mais le rôle des technologies, et en particulier des technologies numériques aujourd'hui, l'informatique, l'internet, l'usage des téléphones, ont tendance, que ce soit dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel ou dans la vie personnelle, à créer une pression qui fait qu'on a l'impression de courir après le temps en permanence.
Parce que je suis passée un petit peu justement pendant votre conférence et vous mettiez en rapport le traitement de l'information d'un pays à un autre, par exemple, avec un battement de cils.
Donc, effectivement, cette accélération du traitement de l'information, de la rapidité des échanges, elle existe aussi dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la finance en particulier. C'est pour ça que la conférence s'appelle Tic-Tac, le temps c'est de l'argent. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le trading à haute fréquence, la façon dont les bourses fonctionnent au niveau international, fait que les échanges de vente ou d'achat d'actions, d'obligations, etc., ne sont plus traités par des humains, mais sont traités par des algorithmes, par des machines, qui les informations transitent de façon à la vitesse de quelques millisecondes. Et donc ça fait qu'il y a un flux, il y a une augmentation exponentielle du nombre de transactions qui sont faites dans une journée, et que du coup, le contrôle humain n'est plus tellement possible, et que le domaine de la finance mondiale échappe un peu au contrôle humain.
D'accord. Et pendant votre spectacle, vous avez aussi, de ce que j'ai pu voir, un tableau avec marqué Anthropocène. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, la question de l'accélération du sentiment que nos rythmes de vie s'accélèrent a aussi des conséquences, et certains scientifiques qui s'intéressent à l'évolution notamment du climat ont fait l'hypothèse que nous serions rentrés dans une nouvelle époque géologique, que nous ne serions plus dans l'ère de l'Holocène, qui est donc depuis 10 000 ans après les dernières glaciations, l'époque géologique dans laquelle nous sommes actuellement, ils font l'hypothèse que nous serions rentrés dans une ère qu'ils proposent d'appeler l'anthropocène, donc l'ère de l'humain, parce que on observe dans les couches géologiques les traces de l'activité humaine avec des conséquences très importantes sur la perte de biodiversité, sur l'évolution du climat, sur la perte d'un certain nombre de ressources qui ne sont pas renouvelables au niveau de la planète. Et donc cette époque-là, pour les anglo-saxons, ils l'ont appelée « the great acceleration », donc la grande accélération, parce qu'on observe le développement de phénomènes de croissance exponentielle du rythme d'évolution de certains éléments, et avec le développement de ce qu'on appelle un phénomène anthropique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce développement ultra rapide risque de perdre la capacité de revenir en arrière, et qu'on va avoir des réactions qui vont se développer, des réactions en chaîne qu'on ne saura plus stopper et qu'on ne saura plus arrêter.
Du coup, ce spectacle, c'est un peu pour faire une prise de conscience au public. Vous vous adressez au public pour essayer de leur faire peut-être changer des mentalités sur certaines choses.
Oui, alors des fois les gens disent bon, c'est un peu noir, hein, un peu comme histoire, c'est pas très réjouissant. Mais l'objectif, c'est d'arriver justement, la présentation sous forme de spectacle a comme objectif de pas plomber l'ambiance et de poser des questions, mais aussi de proposer des pistes d'ouverture, des pistes de réflexion qui permettent d'envisager comment nous, en tant qu'humains, collectivement, on peut transformer, on peut agir, on peut commencer à se positionner autrement pour que l'histoire n'est pas finie, elle n'est pas totalement écrite. Donc nous avons, en tant qu'humains, en tant que communauté humaine, la possibilité de changer la fin de l'histoire.
D'accord. Et du coup, vous, quel a été votre propre déclic afin de faire cette conférence ?
Alors en fait, moi j'ai failli faire un burn-out, donc je dis j'ai failli parce que je me suis arrêté en fait juste à temps. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de travailler, que ça devenait compliqué pour moi, et que j'ai ressenti le besoin de prendre une année sabbatique. Et c'est en prenant cette année sabbatique, en prenant du temps pour réfléchir, en consacrant ce temps-là à écrire cette conférence gesticulée, à lire des choses autour de cette thématique, que j'ai découvert cette question du burn-out, donc qu'on appelle en français le syndrome d'épuisement professionnel, et que à travers la lecture des symptômes des personnes qui faisaient ce type, qui déclenchaient ce type de maladie, puisque c'est une maladie, je me suis aperçu que en fait j'avais les mêmes symptômes, mais je m'étais juste arrêté à temps, en fin de compte. Et Hartmut Rosa explique dans son ouvrage, donc c'est un philosophe allemand, que le syndrome d'épuisement professionnel est vraiment le symptôme du 21e siècle, c'est la maladie du 21e siècle, et qui est pour lui la nouvelle forme d'aliénation en fait de notre époque par rapport au travail.
D'accord, donc c'est peut-être pour ça que vous utilisez l'humour aussi, pour éviter d'un peu de que ce soit terrible,
oui,
d'annoncer ça.
Oui, l'objectif, c'est pas que les gens se mettent à pleurer et à se lamenter, mais il est encore temps de réagir. Il faut juste effectivement prendre conscience qu'il y a un peu il y a urgence sur certains sujets de réagir et de pas attendre encore 10 ans, quoi. Sur les questions du numérique, nos usages évoluent très très rapidement à l'échelle mondiale, et on constate effectivement que notamment j'aborde la question de l'impact environnemental de nos usages numériques. C'est un sujet qui est sorti assez récemment. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte que la consommation énergétique, l'impact sur le climat est très très important. À un moment donné, on a dit finalement il vaut mieux arrêter de prendre l'avion, et grâce aux technologies numériques on va moins se déplacer, sauf qu'aujourd'hui la consommation d'énergie et l'impact carbone de nos usages numériques est beaucoup plus important que celui de l'aéronautique.
D'accord, du coup c'est pour ça aussi que vous avez sûrement choisi ce titre, parce que c'est une phrase qu'on a l'habitude d'entendre sans vraiment la comprendre, le temps c'est de l'argent.
Alors
ça interpelle.
Ça interpelle, c'est une phrase qui est un petit peu connue, et effectivement, on peut en faire une interprétation très très différente. l'origine, c'est plutôt dans l'idée que on peut gagner beaucoup d'argent en gérant mieux son temps. Or, bon, c'est pas tellement le. J'ai un peu détourné l'idée de la formule. C'est pas ce message-là que je veux faire passer, bien évidemment. Mais c'est plutôt que autour de ces questions du temps, certaines personnes pensent qu'on peut mieux gérer son temps en faisant appel à je sais pas, la méditation par exemple, ou en gérant mieux son stress, etc. En fait, ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif, et c'est une question qui a vraiment à voir avec l'organisation économique de notre société et avec un monde capitaliste pour qui il y a une optimisation très très importante autour de cette question du temps. Et c'est vraiment un enjeu aujourd'hui fondamental.
D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres projets de ce type-là en préparation ou pas ?
Alors cette conférence, elle a été créée il y a 6 ans maintenant. Et il y a 2 ans, j'ai créé une deuxième conférence gesticulée qui s'appelle « De quelle humanité le robot est-il l'avenir ?» et qui parle du développement de la robotique et de l'intelligence artificielle. Toujours donc en lien, là, le fil conducteur, c'est la question de la science-fiction. Comment finalement, dans la science-fiction, les robots ont été présentés avec une image des fois assez positive. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui relève de l'imaginaire. Les robots sont là. Ils existent réellement, ils envahissent notre monde de tous les jours, notre vie de tous les jours. Et la question est, comment nous, humains, on va pouvoir vivre avec eux ? Et les choses ne sont pas faites. C'est le moment de se dire quel choix de société on a envie de faire. Et sur l'intelligence artificielle, c'est encore plus important parce que les robots, on les voit. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui peut être très très présent. Et donc c'est important aujourd'hui de se dire... est-ce qu'il est utile de mettre des limites au développement de ces technologies-là ? Qui décide ? Où est-ce qu'on met les limites ? Et ça, aujourd'hui, c'est intéressant de ne pas faire comme on a fait pour le domaine du nucléaire, où les décisions ont été prises dans un cercle très fermé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça concerne de très près les citoyens, mais ils n'ont jamais été consultés. Et maintenant, on a des questions de gestion des déchets qui sont considérables, qui nous concernent tous. Et en fait, il est un peu tard pour nous consulter.
Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Philippe Cazeneuve. Et puis, on rappelle le titre de votre conférence, Tic-Tac, le temps, c'est de l'argent.